Une info qui est peut-être passée inaperçue pour vous, pas pour moi en tout cas. Je ne sais pas si vous connaissez Bruno Bonnell.
Oui, bien sûr.
Bien sûr. Voilà.
Il est dans le film Debout les femmes.
Il est
confronté à.
Député LAREM.
Absolument. Voilà. Il est confronté. Moi, je vous invite d'ailleurs, j'en profite pour dire que ce documentaire a été retenu pour les prochains Césars. Il est nommé dans les prochains Césars. Moi, je l'ai vu. Et ce soir, j'anime à Saint-Bonnet un débat autour de ce film. Et Bruno Bonnell. Et député de l'AREM, et il est confronté à Ruffin, et c'est assez intéressant de voir dans ce documentaire cette relation qui aujourd'hui, au départ, ils étaient adversaires, et dans le débat, ils deviennent très proches,
complices,
parce que, pour des raisons que je ne vais pas dire à l'antenne,
faut pas tout dévoiler.
Qui sont liées à la situation de Bruno Bonnell, qui est confronté à la problématique directe des métiers du lien. Et lui, il sent bien qu'il y a vraiment quelque chose à faire sur les métiers du lien.
Bon, en tout cas, là, ça n'a rien à voir avec ce film. Ça a à voir avec Jean-Michel Blanquer. Voilà. Je ne sais pas si vous avez suivi les vacances de Jean-Michel Blanquer à Ibiza. Bref, Bruno Bonnell donc, est monté au créneau pour soutenir le ministre. Il dit, Ibiza, c'est plus proche, je vous rappelle, si vous devez revenir à Paris, que si vous êtes à Gap, à Épinal ou dans certains coins reculés de France.
Ça aurait mérité une réaction du maire de Gap.
Alors ça, j'ai vu ça, j'ai dit non. Mais on est célèbre, puisqu'on parle de nous au niveau national. C'est quand même étonnant, quand même. Mais enfin, c'est quand même terrible de voir que on est considéré comme le trou du cul du monde, hein, quelque part. Qu'est-ce que tu en as pensé de ça, Jean-Michel?
Après, la vraie comparaison est de savoir si Gap, c'est Ibiza. Voilà, donc... voilà, c'est la vraie comparaison.
Pas,
donc
je
laisse le soin à M. le maire de Gap de donner des arguments pour expliquer que Gap est Ibiza.
Ouais. Alors La comparaison, elle est quand même violente.
Bah, elle est violente, j'en sais rien. Après, vous savez, tout ça, c'est des petites phrases. Ouais. La réalité, c'est quand on regarde des isocourbes et que, par exemple, j'ai toujours été frappé par ces cartes de géographes ou de spécialistes d'analyse du territoire qui redéfinissent les contours de l'hexagone en fonction des durées, par exemple, d'approche en train. Et c'est vrai que Gap est très, très éloigné, quasiment un territoire ultramarin, quand on regarde le lien en heure par le train. Bon, voilà, une fois qu'on a dit ça, j'ai été également troublé par une présentation, et je vous invite à regarder ça parce que ça m'a énormément marqué. On a en fait des représentations qui sont liées à la géographie finalement de l'école républicaine. Donc on voit l'hexagone, vous voyez très bien, là je suis sûr que les auditeurs visualisent l'hexagone pour pouvoir rentrer sur les cartes avec les fromages, avec les bovins, les ovins quand on était en classe, etc. Si vous prenez la carte par exemple, la Méditerranée, et qu'au lieu de la regarder comme on la voit habituellement, c'est-à-dire avec la France centrée, l'Afrique du Nord, etc., mais que vous la changez d'axe et que vous la regardez à partir du milieu de la Méditerranée, vous vous rendez compte que finalement Marseille est beaucoup plus proche de Tunis. Les Marseillais le savent d'ailleurs.
Gap est proche de Paris.
Exactement. Mais que Gap est très proche finalement de Tunis aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc c'est toute une question de représentation mentale de la géographie. Donc c'était pas très habile de la part du député Bonnell de dire ça. Mais tout dépend de la manière dont ça se passe. Si on regarde la centralité par exemple de Gap ou de Briançon par rapport à l'Italie, on est au cœur de l'Europe. Donc c'est qu'une question de représentation.
Objectifs, Jean-Michel, soyons objectifs. Tu défends ton territoire, c'est normal, mais soyons objectifs. Ibiza Paris, 1h30. Gap Paris, en train de nuit.
Alors, tu sais quand tu pars.
Justement, à ce propos, il faut signaler aux auditrices et aux auditeurs. Alors, je recherchais rapidement le nom du romancier qui a écrit un roman sur le train de nuit.
Oui, Paris-Briançon.
Et tout à fait. Moi, je ne l'ai pas encore lu, mais
il
faut que je lise. Mais c'est intéressant. Parce que là, en parenthèse, le romancier, il parle plutôt au positif de notre département. Dans ce qu'il raconte, moi j'ai vu les quelques passages, il valorise. Et moi qui, je suis plus très jeune, mais j'ai pris pendant des années le train de nuit en aller-retour, du temps où on avait les wagons-lits, Les Bros le prenait à l'époque, tu étais un des proches collaborateurs de Marcel, je m'en rappelle très bien, et il y avait tous les élus que je retrouvais toujours dans le train, c'était souvent le lundi soir d'ailleurs, parce que le lundi, ils étaient était dans la Circo et le lundi soir il montait à Paris. Et moi, ce train, c'était toute une aventure, quoi. C'est vrai. Tu t'endors à 10 et tu te réveilles à la gare de. À l'époque, c'était la gare de Lyon.
Ouais, tu t'endors.
Il y a une couchette.
Non, c'est Paris aussi.
Il y a une couchette.
C'est plus Paris, gare de Lyon. Moi, j'allais prendre la douche à l'Européen en dessous.
Tu te réveilles au Austerlitz.
Un petit plateau de fruits de mer à Audéliné.
J'ai des super souvenirs de ce train de nuit, quoi.
Non, mais on ne va pas parler du train de nuit, c'est pas ça. Je t'ai donné l'exemple. Je veux dire, si tu veux rentrer de Gap à Paris, il faut que tu prennes donc le train ou le bus pour aller à la prochaine grande gare, pour prendre le TGV, ou alors tu vas en voiture, ou tu remontes directement en voiture, ou si tu prends le train de nuit. Enfin, je veux dire, c'est quand même très compliqué. D'un autre côté, ça nous permet aujourd'hui d'être dans un coin sympa où on n'est pas emmerdé tout le temps.
Maintenant, on peut le dire emmerdé. Hein.
On peut le dire.
Entre nous, quand tu me dis Ibiza, première chose qui te vient à l'esprit, c'est quoi ?
Le soleil.
C'est la fête, c'est.
Ecstasie.
C'est la débauche et tout. Il serait allé à la mode Beuvron.
Ah, c'est non, sûr qu'on n'aurait
pas. C'est
pas
ça, non, ce que je veux dire.
Le symbole. Il a reconnu.
C'est une attaque politique.
Il a reconnu.
La sémantique et on fait appel à l'imagination des gens.
Il a reconnu le symbole, il a dit que c'était effectivement pas bien joué d'aller à Ibiza. C'est vrai que s'il était allé.
J'ai une vision, sur le fond, j'ai une vision très détachée par rapport à cela, parce que l'important, c'est pas qu'il aille à Ibiza de surcroît après un week-end où il s'est marié.
Ouais.
De surcroît, il s'est marié, un nouveau mariage.
Ah, ça, on l'a même pas dit.
Voilà. Mais on s'en fout finalement, c'est ce qu'il fait, quoi. Bon,
c'est sa vie personnelle.
Après, ça fait partie du jeu politique.
Exactement.
Il s'est marié avec une fille qui faisait de la pondelette.
Non, la connerie dans cette affaire, c'est pas tellement qu'il était à Ibiza, c'est qu'il a donné les informations au dernier moment sur le protocole et qu'il a rien trouvé de mieux que faire une interview depuis Ibiza
pour
un journal dont, pour avoir accès, c'était payant. Je veux dire, c'est très maladroit. Moi, il me semble qu'il y a des moyens de communiquer maintenant en matière de courriel, tout ça, via les académies. Quand même, l'éducation nationale est organisée. On a des ordinateurs. Il y a quand même moyen d'envoyer le protocole aux enseignants via les académies et compagnie, quoi. Je trouve que c'est ça, moi, qui est surréaliste. C'est pas tellement qu'il était à Ibiza, je n'ai rien à foutre.
Nous sommes d'accord.
Alors, on va changer de sujet avec une musique qui va peut-être vous rappeler quelque chose. Vous l'écoutez bien ? Et le premier qui trouve me dit.
Je vous interdis.
Et pourquoi ?
C'est le titre de livre de Jean-Marc Passeron.
Ouais, bravo !
Ah, on va parler des Jeux Olympiques, non ?
On va parler des Jeux Olympiques. Eh oui, les Jeux... Bah quoi ?
Oh non ! Oh putain, mais qu'est-ce qu'on est con dans ce département ? C'est pas possible.
Ça revient régulièrement.
Alors,
Brigitte Fossé.
Brigitte Fossé, elle doit avoir 4-5 ans. Ouais. Même pas. Ouais, elle était toute petite.
Il est très fort, ce sénateur. Hein.
Ouais,
oui. Oh putain.
Alors, les JO 2034, réalité ou utopie ? C'est la question qu'on pose aujourd'hui. Alors, il faut savoir que les JO 2018, c'était l'objectif. Hein, tu t'en souviens, Jean-Michel ?
Je disais en 2010, non ?
Tu faisais partie de...
Oui, tu es en photo.
De l'équipe, t'es en photo. Laisse tomber, t'es en photo, t'es mort.
Ils y sont tous allés sur la photo.
Ils étaient tous.
Bon, vous me laissez. Vous me laissez ? Donc, c'est parti d'une boutade à la base sur Alpe 1. Et j'ai retrouvé les explications du principal intéressé à l'époque. Tendez l'oreille.
D'abord, c'est parti de cette table. Pas exactement la même d'ailleurs, mais de ce studio, cette idée. En fait, réellement, elle est partie d'Honoré Bonnet dans l'Ubaye, qui en 92 à la sortie d'Albertville.
Bien avant.
Qui a dit un jour ou l'autre, un jour ou l'autre, il faudra qu'on sache faire ça. Premier truc. Deuxième truc, après, ça a été relancé, tout ça. Et moi, j'en ai fait un vrai challenge, un vrai chantier, où je travaille, mais d'une manière assez technique sur ce dossier. C'est-à-dire que j'y mets toute mon énergie, tout mon temps, il paraît que j'en ai, mais je fais vraiment ça. J'y ajoute, puisque le lieu est convivial, y compris mon argent. Et le propos est de se débrouiller à sortir le dossier, à être le candidat français choisi.
Ça, c'est 2004, je crois. Donc, objectif Gap 2018. Le 5 octobre 2004, conférence de presse avec autour de la table Pierre-Aimé Houd, Jean-Michel Arnaud.
Ah oui.
Vice-président chargé des sports.
PBR, Christian Séard, Luc Alphand. C'était l'époque de l'Union. Et puis ça va partir un peu en sucette. Gab se retire en septembre 2008. Alors on cherche une porte de sortie. On voit fleurir des logos comme Chaillol 2018, Embrun 2018, Saint-Léger 2018, pour finir par Pellevoux 2018. Ouais. 21 janvier 2009, c'est la présentation des candidatures à Paris, vous en souvenez. Il y a quatre candidats, Grenoble, Annecy, Nice, Pellevoux. La candidature nature de Pellevoux ne va pas faire long feu.
On fait zéro.
Le 18 mars, le couperet tombe. Annecy sort vainqueur, 23 voix devant Nice, 10. Grenoble, qui est vert avec ses 9 voix, qui pensait en avoir plus. Et Pellevoux, zéro. Ouais, le concept des jeux modestes, immergé dans la nature, n'a visiblement convaincu aucun des membres du CNOSF. Et c'est reparti pour un tour. Alors, c'est sur une idée, visiblement, du président de la région. Je pense que tu as suivi un petit peu, Jean-Michel.
Oui, j'ai suivi. C'est quoi la question?
Alors, dis-nous. Dis-nous. C'est réalité, toi qui es à l'origine de l'idée.
Réalité ou utopie?
D'abord, faut dire les choses comme elles ont été dites par Renaud Muselier. Une intention de candidature.
D'accord.
Wow, ça, c'est politique. Ouais, mais...
C'est une intention. Non, de...
Franchement, quand on regarde les médias, ce qu'ils nous en ont fait pendant 3 ou 4 jours...
Reprenez précisément ce que Renaud Muselier a dit. Sur une intention de candidature, j'y suis favorable. Pourquoi ? Cela permet simplement de remettre effectivement un coup de projecteur sur notre région, de rappeler que nous avons un massif... des Alpes-Maritimes en passant par les Alpes-Provence jusqu'aux Hautes-Alpes, à même deux. Trois, c'est une mobilisation, me semble-t-il, intéressante pour le monde industriel de la région sud Provence-Côte d'Azur. Quatre, le faire par une région qui est quand même une région importante de France. Ce n'est pas tout à fait la même chose que le faire, comment dire...
Tout seul.
De le faire différemment,
ça a été fait
par le passé ici, et c'est la force de l'institution qui peut éventuellement rendre crédible la démarche. Ouais. Maintenant,
à l'époque, Vauzelle était derrière la candidature.
Oui, enfin, la difficulté, c'est que Pierre Bernard Raymond était alors à l'époque maire de Gap, ouais, et avait donné, certainement dans l'esprit de l'intention, un coup de main. Il y a eu un changement de maire.
Absolument. Et donc, ça, tu ne l'as pas rappelé
vous êtes là pour le rappeler, les enfants.
Et donc, ça aurait réorienté le dispositif. Pour terminer, j'ai beaucoup de sympathie pour le fond de la vallée de la vallée des Écrins, du pays des Écrins. Mais enfin, voilà, c'était très compliqué d'aller avec Pellevoux, qui n'est pas le site le plus remarquable en matière d'infrastructures, de stations de sport d'hiver classiques, même si on a l'eau froide, même si on a effectivement le Dôme des Écrins à proximité, que c'est une super vallée. Voilà, et ça s'est terminé comme ça a été rappelé. Maintenant, je crois que les Jeux de 2034 ne seront en rien ceux de Pékin dans quelques semaines, et les choses sont en train de bouger, et je pense que si on a un positionnement qui est un positionnement sur de la transition au sens large du terme, à la fois en prenant en compte la transition climatique, la révolution sur les formes de mobilité, sur les problématiques de recyclage d'un certain nombre d'infrastructures déjà existantes, notamment côté Italie, avec une puissance qui sera peut-être une puissance paradoxale, c'est le fait que regardez un peu qui candidate aujourd'hui au JO. Ce sont essentiellement soit des pays à régime très autoritaire, soit des pays qui ont beaucoup de pétrodollars et qui cherchent
ont beaucoup de
à faire autre chose. Et voilà, donc une candidature française, européenne, sur un schéma un peu nouveau, parce que le CIO va devoir de toute façon faire sa révolution culturelle. Ils vont pas pouvoir continuer à faire comme ils l'ont fait ces dernières années, avec un certain nombre d'affaires.
Les deux derniers JO,
avec des chartes aussi de respect humain, des droits humains, sur lesquels je pense qu'il y a, et je le dis sous le contrôle de Jean-Claude Hérault, une marge de progression phénoménale. Voilà, il y a un coup à jouer, mais il ne faut pas que ce soit un coup médiatique. Il faut que ce soit une façon d'interroger les acteurs du territoire et faire en sorte que les acteurs du territoire montent dans une barque, mais d'un projet différent. Voilà. Après, ça se fera avec les industriels, les grands groupes français, parce qu'on n'y arrivera pas seul. Et il faut qu'on ait l'État qui nous soutienne, ce qui n'était pas le cas dans l'initiative qui était une pure communication à l'époque de Pellevoux 2018. Donc il faut travailler sérieusement. Et si on travaille sérieusement, on peut ne pas être ridicule sur une démarche comme celle-ci. Et je terminerai. en disant que Renaud Muselier, probablement il y a un peu de politique là derrière, a certainement anticipé une annonce de même nature de Laurent Wauquiez sur la région Rhône-Alpes.
Ah oui.
Et donc, je ne suis pas malheureux en tant qu'élu des Alpes du Sud, parce que sur un sujet comme celui-ci, on se positionne en léger décalage. Et si j'ai des souvenirs anciens de 1992, Albertville, j'étais étudiant dans les années 80 dans la région de Grenoble, et je me souviens des collègues, des amis qui ont porté le dossier, qui avaient mon âge, hein, avec un enthousiasme fou, parce qu'ils avaient derrière une force industrielle, une force régionale que nous n'avons pas su, que nous ne savons pas mobiliser dans notre région. Or, on a des grands groupes, pas forcément dans le domaine de la neige, hein, mais on a des grands groupes dans notre région qui sont des leaders, Thalès, j'en passe quelques-uns, qui sont des leaders mondiaux, et donc il faut qu'on mobilise nos acteurs économiques en profondeur. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Patrick ?
Moi, je me demande si on ne devrait pas raisonner en termes de région, mais pas forcément de région française. On est dans un secteur où on a l'arc alpin, on a les Italiens. Je pense que ce genre de dynamique pourrait avoir du sens. Mais raisonner à l'échelon...
Uniquement local, tu veux dire.
Local, chez nous, où ça pue l'image... oui, effectivement, on va parler de nous, quoi.
Mais à la
je crois que c'est l'intention de Renaud Muselier. Hein.
Ouais, mais ne faisons pas deux fois l'erreur, quoi. Voilà.
Moi, la question que je me suis posée quand j'ai entendu tout ça, bon, c'est est-ce qu'il y aura de la neige en 2034 moi, c'est la première chose que je me suis posée.
On ne l'a pas évoqué, mais le réchauffement climatique, c'est vrai que c'est un peu chaud.
Moi,
quoi,
franchement,
sans jeu de mots.
Malheureusement, je suis au contact, parce que je fais beaucoup de ski de fond. Et quand je vois aujourd'hui l'enneigement qu'il y a dans le Queyras, on en parlait tout à l'heure hors antenne, où on a la chance, heureusement qu'il fait froid la nuit, mais il y a très très peu de neige. Quoi. Il est tombé, j'en parlais avec l'ancien maire de Seillac, Tintin on l'appelle, qui est un mec qui a toute l'histoire du Queyras dans la tête. Il me dit, habituellement il tombe 4 mètres de neige dans le Queyras, en moyenne. Cette année, on est à 55 cm.
Hey,
voilà. Depuis le début de la saison, il est tombé 55 cm. Moi, la question que je me pose, c'est si c'est pour faire des JO comme à Pékin, savez-vous qu'à Pékin, les JO, ils vont se faire essentiellement sur la neige de culture.
Oui, en cadeau en neige.
Il n'y a pas un brin de neige naturelle. Franchement, je ne sais pas. Moi, je suis très interrogatif.
La parole à Michel.
Moi, je vais effectivement emboîter le pas avec de Jean-Claude. Si on se projette effectivement sur les carences de neige qui risque de se produire d'ici une douzaine d'années et plus, il va falloir trouver des idées, puisque c'est un sujet récurrent. Hein. On se pose des questions pour la pérennité des stations. Alors, les stations qui sont à une certaine altitude, ça vaut le coup d'investir, d'être novateur, de mettre des investissements et de maintenir cette activité, parce que dès aujourd'hui, effectivement, s'il y a une perspective de Jeux Olympiques, il va falloir équiper les choses, mais avec, dans un contexte environnemental, il faudra respecter ça. Alors là, je ne sais pas si on va y arriver. Il y aura toujours des conséquences néfastes à l'environnement lorsqu'il y a des infrastructures comme ça, lorsqu'il y a des jeux comme ça. C'est pas tout beau, c'est pas tout bon. Donc, mais si ça prend cette orientation, c'est un levier qu'il faut peut-être saisir.
Jean-Michel ?
Oui, simplement, lorsque Renaud Muselier, je ne suis pas son porte-parole, mais j'étais présent lorsqu'il a présenté cette initiative, il a relayé sur la station de Risoul en particulier, il a évoqué, et j'ai effectivement recherché à l'instant même cette référence, hein, il a évoqué une étude portée par la région, qui engage en fait les 43 stations de la région sud. Clim Snow, c'est le nom de l'étude, qui regroupe, c'est en fait un consortium qui regroupe Météo France, l'INRAE, c'est l'Institut National de Recherche sur l'Environnement, et Dianège, une étude concernant les 43 stations des Hautes-Alpes pour faire en sorte de se projeter à échéance 2050 et voir de quelle manière les investissements, les adaptations des équipements dans ces stations doivent être imaginés, projetés. Ce que disait Renaud Muselier en substance, puisqu'il a eu le rendu de cette étude, c'est qu'on aura grosso modo au-delà de 1800 mètres d'altitude, on aura encore de la neige en 2050 pour skier. Donc ça veut dire qu'effectivement la notion de 4 saisons, d'activité à diversifier en dessous de 1800 se pose régulièrement, mais on aura encore de la neige en 2050. Ça a été un des éléments, nous a-t-il expliqué, clé dans sa déclaration d'intention de candidature. Parce que si effectivement, sur la base de ces études, qui sont des études scientifiques, ce ne sont pas des politiques qui font cela, ce ne sont pas des communicants, ce sont des scientifiques, ils ne se seraient pas lancés dans cette opération. Donc on sait que, grosso modo, pour les 25 prochaines années, on aura encore de la neige dans les Alpes du Sud, à des altitudes un peu plus hautes, avec des contraintes probablement un peu différentes de celles que nous avons aujourd'hui, mais c'est encore possible. Et je crois que l'enjeu aussi d'une candidature possible d'intention de candidature, c'est évidemment de s'interroger sur les quatre saisons. Je discutais avec le maire de Risoul récemment, il m'expliquait que grosso modo, en gestion, en régie directe sur la gestion des remontées mécaniques d'été, il arrivait à équilibrer les comptes parce qu'on a une nouvelle modification. Évidemment, il n'a pas les mêmes charges fixes qu'en hiver, mais il arrive à équilibrer les comptes. Donc, on a également de nouvelles évolutions de fréquentation de la montagne. Grosso modo, on a des semi-résidences principales aujourd'hui, ou semi-résidences secondaires. Les gens, de plus en plus, viennent vivre 4 mois en montagne, 4 mois en ville, 2 mois ailleurs, parce qu'on a le numérique, même s'il y a encore des défaillances dans les Hautes-Alpes, mais on monte en numérique. Et grosso modo, les stations de montagne, qui cochent pas mal de cases, hein, qualité de l'air, environnement protégé, deviennent des lieux de résidence principale pour une partie de l'année. Et donc la notion de résidence secondaire est en train de s'atténuer. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger. Et je pense qu'à la fois sur ces questions-là, qui sont des questions sociologiques, sur des questions purement techniques, scientifiques, de projection des niveaux de la nivologie en 2050, sur la manière dont on a restructuré nos départements, il y a un chantier. Et nous qui sommes des générations intermédiaires, enfin pour ce qui me concerne, je ne suis pas encore trop vieux, mais je ne suis plus très jeune non plus, il faut vraiment qu'on passe le relais, qu'on arrive avec les générations qui suivent à faire les mutations que nos aïeux ont fait dans d'autres circonstances. Vous savez, quand Bonnet dans l'Ubaye ou quand Ricou, pas Patrick,
à Orcières,
ou quand on fait le tour de toutes les Alpes, ils ont imaginé que des champs à vaches deviennent des stations de sport d'hiver. Nous, il va falloir qu'on imagine comment nos champs d'hiver, nos champs de stations de sport d'hiver évoluent vers autre chose, en faisant en sorte quand même de garder des populations l'année ici, parce que le vrai sujet dans notre département, c'est la déprise démographique. On va avoir, chaque année, on a le cirque lié à la nouvelle carte scolaire. Vous allez voir les chiffres en Haute-Vallée, en dehors de Gap, grosso modo, et Briançon, et un peu en Brun, vous avez un dépérissement démographique du département. Donc soit on laisse filer au fil de l'eau, on n'a rien, soit on essaie, c'est pour ça que c'est au moins cela, l'intérêt de porter une ambition, une intention de candidature, ça permet de passer à la maille tous nos sujets et de repositionner notre département sur ses ambitions et faire en sorte que ceux qui disent on nie le réchauffement climatique, il y aura, et ceux qui disent, je termine là, il n'y aura plus de neige, je pense qu'il y a un compromis et il faut discuter de ça et se positionner sur les bons enjeux.
Non mais c'est pas possible. Hein.
Je suis un peu long.
Non, Benoît, t'es pas long.
J'ai juste effectivement les vraies intentions vont au travers de ça. Tout à l'heure, Jean-Claude parlait du Kera, les niveaux d'enneigement et tout. Mais il faut que les JO puissent nous amener les moyens de mettre en place des infrastructures de rentrée.
Non, on est d'accord.
Je pensais au Kera tout simplement parce qu'il y a la montagne qui est descendue sur la route.
Ouais.
Et je veux dire, ça doit pouvoir faire partie des choses qui pourraient éventuellement nous amener des financements, mais justement pour rétablir des...
Moi, ce que je voudrais quand même dire, derrière tout ça, j'ai écouté l'intervention assez longue de notre sénateur, mais il n'a pas, ni l'un ni l'autre, vous avez parlé de problèmes essentiels, qui est l'eau, qui est la qualité de l'air. Savez-vous qu'aujourd'hui, on a une très mauvaise qualité de l'air dans les Hautes-Alpes? Il ne faut peut-être pas le dire, ça ne fait pas de la pub.
Pas
de partout. Mais on a de la mauvaise qualité de l'air parce qu'il y a un problème d'anticyclone. Et donc, du coup, moi, je ne suis pas un spécialiste, mais les météorologues expliquent les conséquences de cet anticyclone sur la qualité de l'air, notamment dans les vallées liées au fait que les gens se chauffent au bois. Il y a aussi quand même les véhicules qui circulent. Donc, tout ça, on peut faire des châteaux en Espagne, hein, comme disait mon père, mais il n'empêche qu'au fond
du Jean-Michel Blanquer,
du fond du problème, il faut regarder les conséquences et les évolutions écologiques. Et ça, on ne pourra pas y couper, quoi. L'air, l'eau, les transports. Moi, je veux bien créer encore des infrastructures pour faire des JO, des infrastructures qui vont servir pendant 4 semaines.
C'est comme ça qu'il faut faire les choses. Je parlais des routes quand je parlais d'infrastructures.
Ouais.
L'accès aux vallées.
On va arrêter là parce que l'émission est terminée, parce que sinon on va faire 2 heures. Oui, oui. Eh bien, oui. Voilà. Sinon on va faire 2 heures.
Tu arrives en retard.
sinon on va arriver. Non, mais on va jamais s'en sortir. Et puis il y a une infrastructure, il faudra quand même réfléchir aussi, à laquelle il faudra réfléchir aussi, c'est le pouvoir d'accueil au niveau des lits, ne serait-ce que pour les hôtels de certaines catégories que aujourd'hui on n'a absolument pas sur notre département. Enfin, je sais pas si tu es d'accord, mais voilà, c'est un peu compliqué.
De notre collègue Jean-Claude, il te dit si t'achètes une quechua, puis ça y est, c'est résolu.
Une quoi
une tente quechua. Tu les as, tes infrastructures. Voilà.
Voilà. Ouais, et c'est sur ces bonnes paroles qu'on se quitte. Merci Jean-Michel.
Avec beaucoup de plaisir.
Jean-Michel Arnaud était notre invité. Bah merci les amis. Merci. Mimi, Patounet, Jean-Claude. On se dit bah, la semaine prochaine pour un autre numéro du Coq à l'âne. Allez, bon week-end.